RMC, les grandes gueules.
J'ai une pensée très sincère pour ceux de nos compatriotes qui se voient en panne d'essence ou en grande difficulté pour utiliser leur véhicule. Je reçois des contacts et des messages de gens qui me disent bah du coup j'arrive pas, quelles que soient les raisons, le fait est que j'arrive pas à trouver de l'essence là pour en mettre dans ma voiture pour aller travailler
demain. Alors justement.
Et donc c'est absolument ce que nous voulons éviter. C'est pour ça que mon discours, il est important de l'inscrire dans un contexte. Il est de dire nous ne sommes pas dans une situation qui devrait générer une pénurie parce que nous avons du carburant. Il y a des difficultés de distribution et donc il y a des difficultés temporaires, réelles mais temporaires dans certaines stations et on ne doit pas paniquer.
Comment on en sort ?
On va trouver une solution.
Comment j'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée.
Alors d'après les chiffres donnés par porte-parole du gouvernement, on a 15% des stations qui connaissent des difficultés sur au moins un type de carburant.
Oui, c'est un chiffre qui reflète pas tout à fait la réalité. Par exemple, dans le nord de la France, c'est une station sur trois qui est à sec. Parce que le Nord est particulièrement touché. Olivier Véran a dit, il faut pas paniquer, mais il a pas d'autre solution. C'est quand même un peu compliqué. On a un gouvernement qui nous dit ne paniquez pas, mais qui n'offre aucune solution. En gros, la solution, c'est d'attendre. Et effectivement, les professionnels nous disent qu'il faudra compter environ encore 10 jours avant un retour à la normale. Alors, que se passe-t-il? Il y a deux choses. Il y a tout d'abord la grève des salariés des raffineries, notamment chez Total Energy, qui se prolonge depuis 10 jours. Et donc, plusieurs raffineries sont bloquées. C'est une grève à l'appel de la CGT qui réclame une revalorisation salariale de 10% pour l'année 2022, donc forcément moins de carburant disponible. Et puis, il y a eu aussi l'effet domaine et l'effet pervers provoqué par la ristourne sur le carburant, double ristourne si on va chez Total, et notamment dans le nord de la France. C'est-à-dire que les Belges, les automobilistes belges, depuis plusieurs semaines, vont en France faire le plein. Ce qui fait que ça a vidé les stations-service françaises. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les automobilistes du nord de la France vont en Belgique, où c'est beaucoup plus cher, pour faire le plein.
Exactement.
On est quand même dans un truc complètement ubuesque. Donc, effectivement, ce qui est un peu surprenant, c'est que le gouvernement n'offre aucune solution. Certains disent, par exemple, qu'on pourrait dire aux automobilistes, vous avez le droit de prendre 20 ou 25 euros, c'est tout, pas plus. Enfin, il y aurait peut-être des choses à organiser. Est-ce que ça va être l'angoisse du week-end? Comment pourrons-nous rouler ce week-end?
On a une exception. Varoise. Monsieur Mourad Boudjelal.
Pourquoi t'as... Moi, j'invite tout le monde à venir dans le sud. J'ai voulu faire le plein, parce que, en ayant écouté BFM, je me suis un peu affolé mercredi. Donc, j'ai voulu faire le plein. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne.
Bah oui.
Donc voilà. Donc si j'avais su, j'aurais pris quelques jerrycans que j'aurais revendus au marché
noir. Paris, les Hauts-de-France ne sont pas. Paris, les Hauts-de-France ne sont pas la France.
Quoi. Non, mais dans le sud, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a absolument aucun problème.
À Marseille, il y a des problèmes. À Marseille, il y a eu beaucoup de pompes à sec ce week-end. Et là, j'ai reçu un message d'Aline qui m'en a envoyé plusieurs hier, dont un. Elle est infirmière libérale, tu vois, c'est ce que je disais hier. Il y a des professions. Elle n'avait pas de carburant. À 11h31, elle cherchait encore du carburant. Elle commençait à travailler à 14h. Elle a appelé l'ordre des infirmiers qui n'a pris aucune mesure pour ce type de personnes. Elle fait minimum 100 km par jour et elle n'a pas de carburant. Et elle sauve des vies concrètement tous les jours. Donc elle est en zone rurale. Donc sans voiture, elle ne peut pas travailler. Et ni le gouvernement, ni l'ordre qui s'occupe de cette catégorie, donc l'ordre des infirmiers, n'a pris de mesure pour permettre à ces gens d'avoir un minimum de carburant pour aller travailler. Ça c'est grave, tu vois.
Non, mais en fait, le gouvernement ne peut pas tenir une autre position. Parce que s'il dit, bon, il va y avoir des pénuries, etc., tout le monde va sauter dans sa voiture, aller
faire... C'est déjà un peu le cas. Déjà, c'est déjà le cas.
Il va faire des pleins de précautions. Et donc, en fait, ça va faire une prophétie autoréalisatrice et il va y avoir de la pénurie. Donc, chaque fois qu'il y a les raffineries qui sont en grève, mais ce n'est pas la première fois,
hein,
les 10 ans que c'est assez constant, chaque fois que c'est le cas, on dit toujours, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de carburant, tout va bien. Alors que dans les faits, il y a des problèmes de carburant parce qu'il ne faut pas inciter les gens à aller faire des pleins de précautions. Mais la réalité des faits, c'est que qu'est-ce qui se passe en fait? Si vous avez les raffineries totales, c'est à peu près 50% des raffineries. Hein. Mmh. Et on a deux fois moins de raffineries qu'il y a 30 ans. Pourquoi on a deux fois moins? Parce que les gens consomment moins d'essence, mais aussi parce que quand les grandes entreprises, c'est pour ça que Total et Exxon, les raffineries d'Exxon font grève, quand on a des grandes entreprises, des grandes majors qui produisent et raffinent et distribuent le pétrole, en fait, les bénéfices qu'elles font sont souvent concentrés en fait sur l'exploration. Et délaissent un petit peu tout ce qui est aspect distribution et raffinage. Donc eux, dans les bénéfices qui ont été faits par les grandes boîtes, ils ont l'impression d'être un peu lésés. Parce qu'on continue à fermer des raffineries, on dit que ça ne sert plus à rien et on se concentre sur l'exploration-production qui rapporte beaucoup plus d'argent. Et donc ce qu'ils demandent ces salariés, c'est d'avoir une petite part du gras en fait, qui est fait en ce moment via ces profits qui sont dus en partie à la guerre. Hein, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein, parce que la Russie est un des premiers producteurs de pétrole au monde.
Mais concrètement,
il y a un truc, pardon, que je comprends pas, c'est qu'on n'offre pas de solution. On nous dit depuis plusieurs jours, ce week-end, ça va être catastrophique parce qu'on ne réapprovisionne pas les stations le week-end. Bah là, pourquoi pas exceptionnellement, on ne décide pas de réapprovisionner ce week-end. Est-ce qu'on, pourquoi on ne mobilise pas les forces vives de la nation pour qu'il y ait du carburant samedi dimanche et que les gens se retrouvent pas bloqués?
Non, mais moi, surtout je trouve qu'on peut pas,
quand on est
porteur
du gouvernement, on peut pas aller au micro simplement dire ah ben j'ai des messages, effectivement, c'est compliqué, mais alors, ne paniquez pas. Voilà, merci, au revoir. Enfin, sincèrement. Une fois de plus, ou alors on dit qu'on ne peut rien faire, mais on a l'impression quand même qu'il y a des solutions.
Normalement, on a 3 mois de stock stratégique.
Bah oui,
ils sont un peu partout, mais il faut les mobiliser. Voilà, mais c'est ça, c'est le but d'un gouvernement, c'est d'anticiper, de dire voilà, il y a des grèves de pénurie, on commence à mobiliser les stocks stratégiques.
La grève, on sait qu'elle est là depuis 10 jours, donc on peut l'anticiper.
Et là, on sent bien qu'il y a un manque d'anticipation, et donc on appelle au calme, comme d'habitude, on appelle aux gens de s'adapter. Adaptez-vous, on appelle au calme.
Et en gros, on fait croire que c'est les gens qui sont le problème.
Voilà, c'est ça.
Sauf que, quand même, au-delà d'aller promener, il y a des personnes comme pour Aline, tu vois, j'avais fait la liste hier, tu vois, de toutes ces aides-soignantes, ben, les policiers, tout ça, etc., qui doivent aller travailler, qui doivent avoir accès au carburant. Eux, ils travaillent tous les jours, 7 jours sur 7. Samedi, dimanche compris, des gens ont des soins chez eux. Donc là, il faut trouver des solutions et effectivement venir faire des effets d'annonce, ça suffit.
Ouais. Après, pour reprendre les propos de Thomas sur les revendications salariales de 10%, on peut les entendre par rapport aux profits qui sont faits actuellement par Total. Hein, je veux dire, tous ceux qui ont acheté des actions Total s'en rendre compte, mais ce qu'il faut que les syndicats comprennent, c'est que le marché des hydrocarbures est un marché très fluctuant, tandis qu'une augmentation est fixée. C'est-à-dire que quand on va augmenter, si on augmente les salariés de 10%, d'abord ça sera pas 10%, ce sera 15%, puisqu'il y a les 5% de charges patronales qu'il faudra payer sur ces 10%, donc c'est pas 10 mais 15%, et ça sera un acquis. Et si ensuite ce marché qui est si fluctuant venait à être à la baisse, je veux dire, il y aura quand même le 15% à payer.
Mon cher Mourad,
et donc ce qui peut aussi expliquer qu'on entre dans une négo. Alors après, moi je trouve qu'on est dans un
monde. C'est sur des salaires qui sont souvent assez bas. Hein.
Voilà. Oui, mais ils ont les moyens.
Multitude de salaires bas, ça fait beaucoup. Je veux dire.
Oui, mais multitude de salaires bas grâce auxquels tu fais des
le problème principal, il est que d'un côté on a des revendications qui sont fixes, et de l'autre côté on a un marché fluctuant. Sur un marché fluctuant, on n'a pas d'acquis. Il y a aucun acquis sur le marché sur ce marché-là aujourd'hui. Mais après, on vit quand même dans un monde formidable. Aujourd'hui, on est en 2022, donc on n'a plus d'essence, on n'a plus de gaz, on n'a plus d'électricité.
C'est vrai.
On a l'impression de retourner à l'âge de pierre, tout va bien. Quoi.
Oui, mais parce qu'on voit bien qu'on dépend de tout, en fait. Tout est importé. Voilà. C'est-à-dire que l'énergie qui est vitale pour faire fonctionner notre vie de tous les jours, en fait, à part le nucléaire, mais le problème, c'est que le nucléaire, on est moins bon là. Ouais. Bah, on est très dépendant, en fait.
Barbara, on a besoin de 2 millions de barils par jour pour faire fonctionner notre économie. C'est-à-dire l'équivalent de la production. 2 millions, un peu moins de 2 millions par jour, c'est-à-dire la production du Koweït. Tous les jours, on a besoin d'importer ça, on n'en produit pas. Donc via en Afrique, principalement en Afrique,
il y a pas de pétrole en France. Hein, voilà. Ouais.
D'autant que là, en plus, l'OPEP a annoncé qu'ils allaient réduire leur production. Parce qu'ils trouvent qu'en ce moment, ils n'engrangent pas assez d'argent. Voilà. Donc il faut faire remonter un peu les prix. Nous sommes avec Mathieu qui nous appelle du Nord.
C'est l'intérêt des États-Unis de faire remonter les prix.
Bonjour Mathieu.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, alors Mathieu, du côté de Marc-en-Barœul, comment ça se passe alors chez vous?
Eh ben, c'est la catastrophe, pour rien vous cacher. Ça fait 3 jours qu'on fait toutes les stations essence et elles sont vides.
Est-ce que vous avez absolument besoin là, d'avoir de l'essence là?
Ben, exactement. Au début, j'ai pris un peu les devants, donc je me suis dit, je suis pas encore en réserve, je vais commencer à mettre de l'essence, sauf que impossible, tout est vide. Partout, pénurie d'essence partout dans le nord, à côté de Lille. Mmh. Et là, je suis en réserve et demain, je vais aller au boulot, je vais y aller en vélo.
Et vous êtes obligé d'aller au travail, vous ne pouvez pas travailler de chez vous, notamment Mathieu, dites-moi.
Ah oui, j'ai fait le tour, ça fait 3 jours que je fais le tour. Je me dis, je vais trouver une station essence. Elles sont toutes en pénurie, toutes fermées.
Donc il n'y a pas de solution là.
Ah non, il n'y a aucune solution. Après, si le vélo c'est une solution, c'est la seule. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire.
Vous avez un vélo et vous avez la possibilité physiquement de faire un vélo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Oui, mais je préfère y aller en voiture. J'ai quand même une dizaine de kilomètres. Je préfère y aller en voiture.
Ouais. Ouais. Mais Mathieu, ce que je veux dire, c'est que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture. Vous pouvez pas vous dire bon, tant qu'il n'y a pas d'essence, je peux travailler de la maison, je bouge pas. Dites-moi.
Si c'est 10 jours, c'est bon.
Non, moi, j'ai pas de télétravail dans mon métier, donc c'est des déplacements. Et aujourd'hui, si j'ai des déplacements à faire, c'est en vélo. J'ai pas le choix.
Et vous vendez quoi? Vous êtes commercial? Vous vendez quoi?
Parce que je suis dans un gros groupe hôtelier français.
D'accord. Il y en a qui ont besoin d'avoir des marchandises quand ils sont commerciaux.
Exactement. Donc moi, je peux travailler techniquement dans un bureau, mais on n'a plus d'essence.
Non, mais il faut arrêter de contraindre les gens.
Au final, mon métier ne change rien à la discussion. C'est qu'à Lille, et aux alentours de Lille, il n'y a plus d'essence.
D'accord.
Mais même si ce monsieur pouvait faire du télétravail, mon cher Alain, pourquoi le gouvernement ne fait pas son travail? Comme tu l'as dit, c'est d'anticiper les crises, tu vois, de lâcher un peu de ces stocks.
Les crises.
Non, mais il faut pas. Tu vois, tout est hyper cher, l'électricité est hyper chère. Pourquoi contraindre les gens à rester chez eux? Parce que j'ai vu 15% de hausse, mais ça suffira pas. Tout est hyper cher aujourd'hui, on te contraint chez toi à rester chez toi, à chauffer, à allumer, à charger ton ordinateur, à travailler de chez toi et donc à consommer un peu plus d'énergie déjà que t'arrives pas à payer. Non, que les gens aient travaillé au bureau et que l'État, les entreprises, enfin qui peut, débloque la situation pour qu'on puisse vivre normalement. Comme tu l'as rappelé, mon cher Mourad, on est en 2022, on a l'impression d'être en 1022 et pas en 2022. Il faut arrêter de déconner à un moment donné.
Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Bonne journée Mathieu.
Là, ça fait quand même un tour.
Courage. Tous les jours, merci à vous.
C'est dans le Nord, il y a cette histoire de Belges qui vont faire le plein pour profiter de la ristourne. Ça, c'est des choses qui peuvent s'anticiper. Quand on crée un effet d'aubaine, quand on prend des mesures à l'échelle d'un pays.
Et ça, on la prend pas à l'ENA, quoi.
Il n'y a pas de frontière, forcément. L'automobiliste belge, il se dit, c'est super, je profite on peut faire aller jusqu'à 50 centimes de moins, quand même.
Oui, mais nous aussi, on profite des frontaliers.
Oui, mais donc on a nourri l'économie belge, très bien, avec l'argent public.
C'est pas l'essence dont on profite.
Non, mais c'est de l'argent public. D'argent public qui nourrit l'économie belge, bon, pourquoi pas. Et maintenant, il n'y a plus rien dans nos stations. Et donc, il faut aller. Hier, on avait quand même une automobiliste qui nous expliquait qu'elle avait fait 170 bornes pour aller chercher de l'essence en Belgique. Enfin, c'est complètement ubuesque. Et ça, c'est des choses qui peuvent quand même se voir avant que ça arrive et que ça soit une situation impossible.
Alors, on a Mounir qui est chauffeur VTC et qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Mounir.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Alors, Mounir, comment ça se passe pour vous?
Moi, c'est hier soir, comme je racontais à vos équipes. Hier soir, j'ai fini ma journée et tout, je suis rentré. Et hier soir, en pyjama, je suis sorti à la pompe. Il y avait une pompe pas loin de chez moi, c'est sur la Nationale 104. Et il y avait de l'essence, il y avait tout type de carburant. Donc j'ai fait 2h30 de queue pour mettre du gasoil. Et moi, en fait, j'ai un véhicule de type van et je dois mettre le plein tous les deux jours.
Ah oui.
Parce que je bosse avec, donc pas le choix. Deux heures et demie de queue. Et franchement, il y avait même... au moment où je mets du gasoil, le pire, c'est ce qui m'a un peu pris la tête aussi, c'est qu'à côté de moi, il y avait un gars qui mettait du gasoil, il a mis que 30 euros. Ça se trouve, il avait trois quarts du plein.
Ah oui.
Et ça,
c'est sécurisé.
Ouais, voilà, mais ça, ces choses-là, c'est pas possible aussi.
Alors là, Mounir, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait très bien prioriser aussi les professions, ceux qui en ont le plus besoin.
Ça existe dans certaines stations.
Il y a quelques temps, les commerces essentiels.
Mais ça existe. Alors ça existe, pardon, mais il y a certains préfets qui ont effectivement réquisitionné des stations-service pour les professionnels de la route.
Ouais, mais après, bon, ça va un temps. Mais nous, en fait, moi, ce que je veux, c'est que ce conflit se règle. Parce que moi, la faute, je la remets pas que sur les grévistes. Je la mets pour ceux aussi qui dirigent, les patrons de Total, qui devraient aussi penser un peu à nous et faire un effort et trouver une porte de sortie pour que ce problème se règle. Je sais pas combien ce qu'ils demandent ou quoi ou qu'est-ce, mais aussi...
Ils veulent 10% d'augmentation.
Après, c'est le principe de la grève qui est souvent une action punitive pour des gens qui n'ont rien à voir avec les revendications et qui n'ont aucun pouvoir pour les faire avancer.
Mais comme le dit Mounir, c'est pas le problème de la grève.
Aujourd'hui, c'est vous avez fait 2h30 d'attente hier pour faire le plein, vous avez eu la chance de le faire.
Mais
vous pouvez absolument rien faire, vos 2h30 ne peuvent absolument rien faire pour régler les revendications.
Mounir,
total, il y a peut-être que ce genre de grève, ça date peut-être de l'ancien monde.
Il faut
peut-être revoir le mode de contestation d'aujourd'hui avec peut-être d'autres méthodes.
Mounir soutient les grévistes,
je soutiens pas les revendications. Je dis que ces méthodes sont d'un autre âge.
Oui, mais ça pénalise tout le monde.
Allez-y, Mounir. On parle de télétravail, on pourrait parler de télégrève.
Allez-y, Mounir, pardon.
Ouais, le truc, c'est que. Mais après, Mourad, là, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment.
Écoute, tu remets le pyjama ce soir et tu vas faire tes 2h30, je te dis.
J'ai pas le choix, c'est ce que je te dis. Mais malheureusement, en fait, le conflit, il vient d'un côté et de l'autre. C'est qu'il trouve pas un terrain d'entente. Les deux parties ne trouvent pas un terrain d'entente. Donc les grévistes, ils ont que la grève.
Exactement.
Pour se défendre et pour.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que les salariés de Total en ce moment qui sont dans la merde. Il y a ceux qui ne trouvent pas d'essence et ceux qui ne trouvent pas d'argent pour se payer le plein. Vraiment,
mais il faut pas vanter l'un contre l'autre. Donc bravo, Mounir, votre intelligence et votre soutien aux grévistes, malgré que ça a un effet sur votre travail.
Ce que ça nous rappelle, que le raffinage, on nous raconte toujours, ça sert à rien, c'est le vieux monde, on a vraiment fermé la moitié de nos raffineries en 30 ans. Et là, on se rend compte que tiens, ça fonctionne plus, il n'y a plus d'essence. Donc ça sert à quelque chose quand même, ça sert à quelque chose, c'est utile. Et puis pendant quand même des années là, tu as sur les bénéfices parfois qui étaient en milliards, c'est pas la première fois que Total fait des milliards.
Oui,
t'avais 80% calé dans l'exploration de pétrole non conventionnel en Guyane, on fait des trous ailleurs, etc. Et pas dans le raffinage. Et en fait, aujourd'hui, notre raffinage, il n'est même pas adapté à notre production. C'est-à-dire qu'on importe du diesel, notamment de Russie, vous voyez, parce qu'on consomme trop de diesel, et on exporte de l'essence ailleurs. Donc on n'a même pas un raffinage qui répond à la consommation de carburant en France. Parce qu'en France, 80% de la consommation, c'est du diesel, et 20% c'est de l'essence. Et nous, on ne produit pas assez de diesel, et on produit trop d'essence.
Mais oui, mais Thomas, je suis d'accord avec toi, mais juste avant cette grève, on trouvait ce qu'on voulait dans les stations-service.
Oui, tout à fait.
Donc le fait générateur, aujourd'hui, c'est la grève.
On va continuer d'en discuter. Je remercie Mounir d'avoir été avec nous dans un instant. Jean-Claude, alors Jean-Claude, lui, il est à la cool. Jean-Claude, il est à Nantes.
Ouais.
Alors, il pourrait cramer tout son pétrole, toute son essence. Les stations, il y a ce qu'il faut. Jean-Claude, le témoignage dans un instant.
Ça n'a pas duré.
Avec les GG, avec les grandes gueules.
MC. 9h30. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Est-ce qu'on pourra rouler tranquillement, sereinement ce week-end? C'est la question que l'on se pose dans les GG, dans les grandes gueules, avec Thomas Porcher, professeur d'économie, Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Est-ce qu'on pourra rouler tranquillement, sereinement? C'est-à-dire ne pas avoir la crainte de tomber en panne sèche sur la route avec ce qui se passe. Ce que disait Olivier Véran ce matin, le porte-parole du gouvernement, on a 15% des stations qui connaissent des difficultés en ce moment. Sauf si vous êtes du côté de la Loire-Atlantique ou dans le Var avec le camarade Boudjelal, ça peut aller, comme Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Ouais, salut les GG, vous allez bien?
Oui, vous, ça va, ça roule pépouze là en ce moment, Jean-Claude,
tranquille, je peux même vous en revendre du gasoil si vous voulez.
C'est pour ça que vous appelez.
Ouais. Pardon?
C'est pour ça que vous appelez, parce que je me demandais, c'est étonnant, Jean-Claude, il nous appelle pour dire qu'il n'y a pas de problème.
Le problème, c'est qu'il faut livrer. Hein.
En fait, c'est parce que vous voulez vendre votre carburant.
Allez-y,
Jean-Claude. Ouais, je peux vous rendre 3 euros si vous voulez le litre. Non, mais il faut arrêter de parler, faut arrêter de faire le focus sur le Nord. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai des stations, je suis commercial, de l'essence, j'en trouve facilement. Il n'y a pas de panique à avoir.
Bien sûr.
On parle de pénurie, mais il n'y a pas de pénurie. Il faut arrêter que Thomas Porcher et que Kader nous racontent des salades.
On n'arrête pas de lui dire.
Il n'y a pas de pénurie chez nous. Il n'y a pas de pénurie en France. Voilà.
Dans certaines régions.
Il ne faut pas 2h30 pour le plaisir d'attente à une station-service.
Non, mais il faut que Thomas Porcher appelle ses potes de la CGT pour leur dire qu'il débloque. Voilà.
Tout de suite.
Voilà, c'est tout. Ben oui.
Donc là, le VTC là, qui était à Mounir avant nous, là. Donc c'est quoi? C'est un agent secret de la CGT qui a fait 2h30 en pyjama alors qu'il est VTC.
C'est la CGT qui bloque tout quand même, encore une fois. C'est quand même eux. Avant, et Mourad avait raison tout à l'heure, avant que la CGT ne bloque pas les raffineries, tout allait bien. Mais parce que ces gens-là qui sont nantis, parce que je peux vous dire qu'ils sont pas malheureux, ces gens-là, ceux qui travaillent dans le milieu pétrolier sont loin d'être malheureux.
Dans les raffineries, c'est pas pareil. Allez demander aux salariés de Petroplus s'ils sont heureux, parce que leur raffinerie a fermé. C'est tout un village qui est mort avec Petroplus. Voilà. Okay, d'accord, donc ils n'étaient pas heureux, ça a fermé. Oui, je veux dire, aujourd'hui, il y a 10 raffineries, il y en avait une vingtaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les 10 raffineries qui ont fermé, les salariés sont passés où?
Oui, bah,
allez leur dire qu'ils sont heureux dans leur
banque de mal. Elles n'ont pas fermé parce qu'elles gagnaient trop d'argent.
Le pays va mal, on sait bien que le pays va mal. Pourcher, tout va bien, tout va mal, hein, d'accord?
Ça dépend pour qui, monsieur?
Oui, oui, je suis désolé dans mon. Voilà, bah ouais.
50% qui gagnent moins de 1500 euros, je ne sais pas s'ils vont bien, mais bon, peut-être que pour vous, ça va bien. Bah oui, mais c'est des chiffres, monsieur.
C'est la rengaine. C'est la rengaine des insoumis.
C'est pas la rengaine des insoumis, c'est les chiffres de l'INSEE, monsieur. Non,
C'est la rengaine des insoumis, c'est la rengaine.
Non, c'est pas la rengaine, c'est les chiffres de l'INSEE, monsieur.
Que vous rabâchez à longueur de temps sur les plateaux.
C'est la réalité de millions de Français, monsieur.
Oui, de 50% des Français qui gagnent moins de 1500 euros.
Oui, mais après, non, je m'appelle pas Cahuter, moi j'appelle Cahuter.
Il n'y a pas 50% des Français qui gagnent moins de 1500 euros parce qu'il y a 50% qui en gagnent plus. On ne peut pas opposer les deux comme le fait l'ANUP aujourd'hui.
Ça s'appelle un salaire médian. Ça s'appelle un salaire médian. Quand on gagne moins de 1500 euros, je suis désolé, on ne peut pas dire que la vie est belle en ce moment avec tout qui augmente.
C'est quoi le rapport avec les stations qui sont fermées, Thomas Porcher?
Ben si, demain des revalorisations de salaire.
Je vais vous dire c'est quoi le rapport, monsieur. Je vais vous le dire tout de suite, c'est quoi le rapport, monsieur. C'est que
il y a 85%,
il y a 85% des Français qui vivent en dehors des grandes villes, qui sont dépendants de leur voiture pour aller travailler. Vous avez le prix des carburants qui ont augmenté. Aujourd'hui, il y a des pénuries de carburant. Donc, c'est les gens qui gagnent en dessous de 1500 qui sont directement impactés par la hausse des prix des carburants. Maintenant, sur les raffineries, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des majors qui ont fait des super profits en milliards et qui ont délaissé une partie la distribution. Mais c'est aussi le cas des stations-service parce que les stations-service ont été divisées par deux aussi en France en 30 ans. Et donc, c'est normal que ces gens demandent des revendications et ça permet à des gens peut-être comme vous ou comme d'autres, de se rendre compte en fait que, oui, raffiner du pétrole, c'est-à-dire transformer du pétrole en carburant, c'est quelque chose d'important et qu'il faudrait peut-être pas délaisser cette industrie. À un moment où on a manqué de choses essentielles comme les masques, comme les respirateurs, c'est bien de se rappeler qu'une industrie est essentielle et l'industrie de la raffinerie est essentielle en France.
Ouais.
La différence entre vous et Thomas, c'est que Thomas donne une dimension très sociétale au travail. Il faudrait juste qu'il comprenne qu'à un moment, ces grands patrons ont aucune notion du sociétal, ils sont là pour faire du profit.
Oui.
Voilà. Et donc c'est le grand débat qu'on peut avoir. Est-ce que le travail doit avoir une dimension
sociétale? Mais ces grands patrons ne peuvent faire du profit.
Voilà.
Toi, ces grands patrons ne peuvent faire du profit.
Tu as aussi la dimension profit que tu ne peux pas.
Tu m'avais dit quand il y avait des gens qui perdaient un proche de leur famille, tu avais une dimension sociétale. Tu leur disais tu reviens quand tu veux. Et quand ils revenaient, ils étaient dans des bonnes conditions pour travailler. Donc tu vois,
j'ai imposé la semaine de 35 heures bien avant qu'elle soit faite.
Donc tu vois
la preuve. Oui, mais aujourd'hui. Alors, je te remercie de me prendre un exemple parce que c'est un très bon exemple. Mais, mais je te dis qu'aujourd'hui, la majorité des patrons ne donnent pas une dimension sociétale.
Mais la majorité des patrons,
quand tu dis par exemple, il y a un village qui a fermé, oui, mais c'est pas le rôle d'une entreprise que faire en sorte qu'un village vive aujourd'hui dans le monde économique d'aujourd'hui. C'est pas son rôle. Le rôle d'une entreprise, c'est faire du profit. Pourquoi c'est faire du profit? Parce qu'aujourd'hui, t'as un taux d'engagement, de charge qu'il faut absolument qu'il faut payer tous les mois et que c'est la priorisation, c'est un train dans lequel t'es engagé et tu peux pas regarder ce qui se passe sur le côté ou le paysage. Tu t'occupes uniquement de faire en sorte que le train tous les mois il arrive en gare.
Sauf que la majorité des patrons doivent comprendre, accepter et rémunérer le fait que s'ils font des profits, des super profits, c'est grâce à la petite main d'œuvre.
D'accord, mais quand ils font des pertes, les salariés remboursent.
Mais quelle perte?
Les salariés remboursent.
Non, mais moi j'ai rien contre Total parce que c'est une autre entreprise. Alors je préférerais même qu'elle soit publique pour vous dire comme. Ce qui est bien en fait, Total, il faut jamais oublier, c'est ce qui permet l'acheminement du pétrole, les 2 millions de barils qu'on consomme par jour. Heureusement que Total est là parce que sinon on ne les aurait pas, il ne faut pas critiquer. Mais derrière, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que Total, justement, il regarde tout de l'amont à l'aval, donc de la production à la distribution, qui regarde tout l'outil industriel et l'importance qu'il a. Or là, en fait, les bénéfices, la logique actionnariale, c'est que l'investissement va majoritairement à la production plutôt qu'au reste.
Je pense qu'en matière d'économie, il y a des domaines qui sont essentiels, ça existe réellement, je veux dire.
Le raffinage.
Le gaz, l'électricité sont des domaines essentiels pour la vie. Et peut-être que là-dessus, les profits doivent être minorés. Ou alors, on peut même parler éventuellement de public. Je ne suis pas totalement contre sur certaines choses essentielles pour la vie. Le grand débat aujourd'hui par exemple, est-ce normal qu'on ait annulé depuis 1973 la possibilité pour l'État français d'emprunter à zéro? Parce que c'est quand l'État français emprunte, c'est, aujourd'hui, c'est pour des choses essentielles pour le pays sur lesquelles on est en train de payer des intérêts à des banques américaines.
D'accord, je comprends.
Donc je pense qu'il y a des domaines essentiels. Il peut y avoir un débat où effectivement.
Oui, mais
les
domaines essentiels, pourquoi le confier au public? Moi, je voudrais bien si le public nous prouvait qu'il gérait bien. Enfin, excuse-moi, mais EDF, c'est une entreprise publique. Hein, alors, elle va être 100% publique, mais elle est à 80 et quelques publics. Ah bon, EDF, c'est une entreprise bien gérée?
Non, mais
enfin, attends. L'hôpital, c'est public. C'est bien géré, l'hôpital? Ah bon? L'éducation nationale, c'est public, c'est vraiment bien géré.
Il peut y avoir une certaine morale à démonstration. À caper les profits.
C'est l'État qui faisait la démonstration qui gérait bien, d'accord. Mais sincèrement, je trouve que je préfère que Total reste privé parce que justement, Total démontre en faisant des bénéfices que c'est une entreprise bien gérée. S'il y a une ristourne sur le carburant, c'est parce que Total fait des bénéfices. L'État propose une ristourne sur le carburant en s'endettant. C'est la grande différence.
D'accord. Alors, demain matin, on peut confier une entreprise privée la responsabilité de l'air qu'on respire et ils feront des profits dessus. On n'est pas loin,
Mais là où je rejoins
c'est une métaphore, mais on n'est pas loin.
Privé, dans la logique du privé, tu vas là où ça rapporte le plus. Et si là où ça rapporte le plus, c'est l'exploration-production et pas le raffinage, tu délaisses le raffinage pour l'exploration-production. Et ça, c'est un vrai problème parce que le raffinage est un problème de souveraineté. La plupart des endroits où il n'y a pas de raffinerie, ils importent totalement leur carburant. Et là, c'est une dépendance. C'est quelque chose de souverain, le raffinage. Le carburant, c'est pas n'importe quoi.
Et pour compléter mon propos, on est quand même sur des marchés qui sont quasiment des marchés de monopole. Ouais. Ce n'est pas pareil qu'une entreprise qui est sur un marché ouvert. Donc ce n'est pas normal qu'ils aient la même fiscalité. C'est pour les autres, même chose pour les autoroutes qui sont sur une situation de monopole et qui ont exactement la même fiscalité que sur des entreprises qui sont liées à la concurrence avec.
Là, ce n'est pas normal. On va continuer de se promener dans le pays après Jean-Claude dans du côté de la Loire.
Comment ça, il est à gauche, moi, ça m'inquiète.
Maxime, communiste,
Mourad
Boudjelal. Il faut que je me reprenne.
Maxime, chauffeur routier du côté de la Loire. Vous livrez les stations essence, justement, Maxime.
Oui, c'est ça. Bonjour les GG.
Salut. Comment ça se passe alors en ce moment?
En ce moment, moi, je travaille beaucoup sur la région Rhône-Alpes, sur même la région lyonnaise. Et du coup, nous, on charge à Lyon et on vide dans les stations. Mais du coup, il n'y a pas forcément de pénurie du côté de Lyon. Le problème, en fait, je pense que c'est beaucoup les personnes qui vont mettre 5, 10, 15 euros et qui passent tous les jours. Ah, ouais. Moi, je vois sur Lyon, sur le périph' de Lyon, il y a des stations essence où il y a la queue, elle fait la queue sur la bande d'arrêt d'urgence du périph'.
Ah, ouais.
Parce que les gens, ils vont mettre 20, 30 euros. Si les gens, ils vont faire le plein normalement, on fait un plein normal, il n'y aura pas de pénurie. Mmh. Et les gens n'auront pas d'attente.
D'accord, c'est n'importe quoi.
Mais les gens sont prévoyants, ils prévoient, du coup, comme tout. C'est comme quand il y a les pénuries, le papier toilette et tout ça.
Sauf qu'il n'y a jamais eu de crainte de manquer de papier toilette.
Et quand on peut se laver, quoi.
C'était moins anxiogène que l'essence, quand même.
Voilà.
L'essence,
il y a des gens pour qui c'est. Pour tout,
c'est vital, quoi.
C'est vital pour le travail, c'est la
travailler pour quelle.
C'est pour la mobilité.
Mobilité, Maxime. Ils peuvent être aidants et dans des proches
à
aller voir.
À côté de Rouen.
D'accord. Et là, en ce moment, vous arrivez à livrer normalement les stations? Oui. Ça se passe comment?
Du coup, on arrive à livrer. On a beaucoup de boulot. On n'a même pas assez de chauffeurs. Du coup, on a du boulot de partout. Tout le monde essaye d'avoir du gasoil, du carburant, même que ce soit fuel ou GNR. Et du coup, c'est compliqué de charger à Lyon. Moi, je suis obligé de descendre dans le sud de la France pour aller charger.
Parce que il n'y a pas de problème d'approvisionnement quand vous allez charger. Ça va?
Non, mais en fait, c'est des quotas. C'est des quotas pour les repreneurs, les gros repreneurs. D'accord. Et du coup, c'est ça qui devient un peu tendu, les quotas sont plus serrés, donc du coup c'est plus compliqué d'avoir du produit.
Merci Maxime et bonne route à vous, merci d'avoir été avec nous. On va aller dans le Var, écoutez, de la Loire, on va aller dans le Var. Écoutez Mehdi, qui est du côté de la Seine, bonjour Mehdi.
Seine-sur-Mer.
Allô.
Salut Mehdi, bonjour Mehdi.
Bonjour Ligégé, bonjour. Alors, très content de vous avoir au téléphone.
Il paraît que dans le Var on trouve de l'essence facilement, alors nous disait Mourad.
Ça m'a fait bondir ce que monsieur Boudjelal
il est communiste aujourd'hui de toute façon.
J'ai sauté sur mon téléphone parce que ma femme travaille chez les personnes à domicile. Mm-hmm. Et donc elle était en réserve, elle m'en parle hier soir, et je lui ai dit, écoute, demain matin, je vais aller me lever 2 heures plus tôt pour aller faire de l'essence. D'accord.
Donc c'est tous les 11 heures et...
Comment?
Non, c'était une vanne.
Allez-y.
Soyez pas distrait. Et donc, ce matin, je me suis présenté au Leclerc, mais c'est même pas la peine.
Au Leclerc de la Seine?
Ouais, au Leclerc de la Seine.
Sans faire de publicité, allez au Carrefour de Saint-Émus et vous en trouverez.
Ça fait loin, je suis à la Seine. Et donc, je suis allé à Auchan. Donc, j'ai mis 33 minutes pour faire le plein. 33 minutes, parce que j'étais en réserve. Et ce qui est surprenant, c'est que devant moi, il y avait une personne âgée, je pense qu'elle était à la retraite, elle a mis 17 euros. Je dis, c'est pas possible, je lui ai rien dit, je dis, mais parce que ça m'a... Et derrière moi, il y avait un ambulancier, et il y avait donc les personnes de la sécurité, tout ça, machin, et ils m'ont dit, enfin... L'ambulancier est venu me voir, il me dit « ça vous dérange pas parce que je crois que le stock il va être épuisé
oui. ».
Ah. Donc je l'ai laissé passer, ouais. Et parce que je me suis dit « ça peut être ma mère, mon père, un ami ». Donc je l'ai laissé passer et bien, heureusement derrière après j'ai pu faire le plein. Mais pour dire que...
C'est pas si facile que ça.
Alors, j'ai l'impression qu'à l'est du département on trouve plus facilement de l'essence qu'à l'ouest.
Peut-être.
Au-delà de ça, Mehdi, vous dites que la personne qui était avant vous, moi, ça fait deux jours qu'on a un débat ici sur le carburant. D'un côté, on insulte, enfin, ceux qui mettent le plein se font insulter, et ceux qui en mettent pas assez se font insulter aussi. Peut-être que la personne qui avait devant vous n'a mis que 17 euros parce qu'elle n'avait que 17 euros.
Elle gère peut-être un budget quotidien.
Voilà, un budget quotidien qui est modeste.
Voiture, je pense qu'il avait des moyens, je pense.
Vous savez, les apparences sont souvent très, très, très trompeuses, croyez-moi, premièrement. Deuxièmement, peut-être que même si elle avait les moyens, peut-être qu'elle n'a besoin que de ça et que justement par responsabilité, elle n'a mis que 17 euros parce qu'elle n'avait besoin que de 17 euros et de pas faire le plein. Pour faire le plein
non,
et mettre.
J'entends, mais dit, c'est qu'elle avait lui manqué 17 euros dans son réservoir.
Non, mais ça, il ne le sait pas, en fait.
C'est avec vous qu'on aura conclu la discussion.
Est-ce que ça va
plus vite de mettre 17 euros que de faire un plein?
Est-ce qu'on pourra rouler tranquillement ce week-end? C'est la question qu'on a posée, là, juste pour avoir votre impression. C'est quand même un oui très majoritaire à plus de 68, quasiment 69%. Merci d'avoir donné ce sentiment-là à propos du carburant.